Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Il y a urgence aux urgences, appel à la mobilisation dans les hôpitaux pour plus de moyens, des salaires, des personnels, des lits. Rassemblement cet après-midi devant le ministère de la Santé. Le patron des hôpitaux de Paris promet que les effectifs vont augmenter pour suivre l'augmentation du nombre de patients. Le rapport sur la mort d'une femme aux urgences de la Riboisière confirme que faute de moyens, les process de sécurité n'ont pas tous été respectés. Le malaise aux urgences, c'est le gros dossier de ce journal. Avant cela, avec Sophie Parmentier, l'histoire de cette famille de retour en France, un homme, deux femmes partis faire le djihad et leurs 9 enfants. Ils ont été rapatriés de Turquie. La démocratie est malade au Brésil. Les magistrats qui ont entraîné l'emprisonnement de Lula sont accusés d'avoir voulu l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Le New York Times ne publiera plus de caricatures. Décision prise après une polémique, un dessin jugé antisémite. Et cette décision d'un des plus grands journaux au monde est grave, selon Plantu.
C'est là où la pensée va se réduire, c'est que si les journaux s'aplatissent devant les réseaux sociaux, nos démocraties le paieront très cher.
Nous l'entendrons plus en détail tout à l'heure. Le nombre de noyades en forte hausse l'été dernier, c'est un rapport de Santé publique France. Comment éviter les drames? Quelles mesures de prévention? Nous en parlerons avec notre invité qui est responsable de cette étude. Dans ce journal encore, portrait de la meilleure pâtissière au monde. Ce sera avec vous, Béatrice Duguay, bonjour.
Bonjour.
La Française Jessica Prealpato vient d'obtenir ce titre à 32 ans, pâtissière très originale.
Elle fait des desserts nature, pas forcément beaux, pas très sucrés ni crémeux, mais au plus près du produit, elle ne vous servira pas de framboise en hiver.
À tout à l'heure. Et Miam, c'est vrai que c'est un temps à se réfugier dans une pâtisserie. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un millefeuille et encore des averses.
Ah oui, sur une grande partie du pays. Alors elles sont plus nombreuses et orageuses de la Bretagne jusqu'aux Charentes et puis des Pyrénées jusqu'au nord-est en Méditerranée. Là, c'est pluvieux. Le tout dans une ambiance rafraîchie, 12 à 20 degrés, 21 à 26 tout de même pour la Côte d'Azur et pour la Corse, sous le soleil.
On vous retrouve juste avant 13h30, Élodie. Nous parlerons également de football. Andorre-France en éliminatoire de l'Euro chez les garçons et dans la Coupe du Monde féminine, entrée en lice d'une des grosses équipes de la compétition. Les États-Unis, le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'est une famille complète, un homme, deux femmes, 9 enfants. Les adultes étaient partis faire le djihad entre Irak et Syrie. Ces derniers temps, ils étaient en Turquie. C'est de là qu'ils ont été expulsés. Ils sont rentrés en France ce matin. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Nous allons raconter cette histoire avec vous et en profiter pour faire un point sur ces djihadistes qui reviennent ou pas de la zone irako-syrienne en France. En fonction de la zone où ils étaient, les cas ne sont pas les mêmes. Évidemment, majeur ou mineur, ce n'est pas la même chose non plus. On fait le point donc. D'abord, Sophie, que sait-on de cette famille rentrée ce matin?
Alors, c'est une famille nombreuse, vous l'avez dit, avec 9 enfants, un père et 2 de ses coépouses. C'est un cas de figure assez fréquent parmi les revenants de Syrie ou d'Irak. L'homme a 35 ans, sa première épouse en a 36. Ensemble, ils ont eu 6 enfants. Les plus jeunes sont nés sous le califat de Daesh. Le plus petit est un bébé d'à peine un mois. Le plus âgé est un adolescent de 14 ans. Les 3 autres enfants sont ceux de la deuxième épouse qui avait un premier enfant avec un autre homme et a ensuite eu 2 bébés avec le djihadiste français avec lequel elle est rentrée ce matin. Leur avion est arrivé à Roissy en provenance de Turquie et la provenance est primordiale pour bien comprendre pourquoi cette famille est rentrée, les adultes avec les enfants, alors qu'hier encore la France répétait que la doctrine du gouvernement reste de ne pas faire rentrer les parents du Kurdistan syrien. Précisons que les parents qui sont rentrés ce matin ont été immédiatement placés en garde à vue à la DGA. Les enfants placés auprès de l'aide sociale à l'enfance et le garçon de 14 ans, lui, sera peut-être entendu très prochainement par les policiers antiterroristes.
Alors vous le disiez Sophie, cette famille venait de Turquie, c'est important parce que les adultes en Irak sont jugés sur place. Ceux qui viennent de Turquie, en revanche, sont appelés à rentrer en France.
Exactement, depuis maintenant 5 ans, c'est pas nouveau, depuis un protocole établi entre la France et la Turquie, protocole qu'on appelle le protocole Cazeneuve, tous les djihadistes de Syrie qui ont quitté Raqqa en tentant de revenir par la frontière turque et tous ceux qui ont été arrêtés par les Turcs sont automatiquement renvoyés en France depuis 5 ans pour y être jugés. La Turquie ne juge aucun djihadiste puisque le califat de Daesh ne s'est jamais étendu sur le sol turc. Alors il y a eu beaucoup de retours via la Turquie depuis 2014, plus de 270 retours de djihadistes en France. Il y a eu beaucoup de procès de ces djihadistes en France et ils ont été condamnés en France. En ce qui concerne l'Irak, depuis la chute de Mossoul, vous savez, ville irakienne qui avait été conquise par Daesh, reprise ensuite par les Irakiens à l'été 2017, et bien depuis 2017 en Irak, plusieurs Français ont aussi été arrêtés et l'Irak est à souverain avec une justice reconnue par la France malgré tout, a jugé une 15aine de Français au total. 12 ont été récemment condamnés à mort, 11 Français et un Tunisien qui vivaient en France. Ils ont fait appel de cette peine capitale. Enfin, dernière zone géographique sur laquelle tous les regards sont actuellement focalisés, ce sont ces fameux camps du Kurdistan syrien où il y a encore 450 Français détenus, adultes et enfants. Mais le Kurdistan, vous savez, n'est pas un État. Il n'y a plus de lien diplomatique entre Paris et Damas. Les Kurdes ne jugent pas les Français pour l'instant. Et les adultes français qui sont au Kurdistan syrien n'ont plus d'espoir de retour en France, puisque la France dit qu'elle va seulement chercher les enfants au Kurdistan syrien. C'est ce qui s'est passé hier avec le retour de 12 enfants orphelins pour l'essentiel.
Et il y en aura sans doute d'autres. Hein.
Oui, puisque le gouvernement reste sur cette ligne. Aller chercher d'autres orphelins en Kurdistan syrien, pas les adultes, et plusieurs avocats dénoncent une discrimination insupportable pour les enfants avec ces retours au cas par cas.
Merci Sophie Parmentier. Un appel à témoins après l'accident de Lorient. La police lance cet appel à témoins pour retrouver l'automobiliste de 20 ans qui a heurté deux enfants et en a tué l'un des deux. Lui et la personne qui était à ses côtés dans la voiture. L'appel est notamment diffusé via Twitter. Photo du conducteur, 1m80, type eurasien, teint mat, cheveux noirs. La passagère, le visage est également affiché, mesure 1m65, décrite comme de corpulence mince. Si vous avez d'éventuels témoignages, le numéro de téléphone est le suivant, 02 97 78 86 00, 02 97 78 86 00. Voilà une colère qui parle à tout le monde et qui menace de s'étendre. Colère des personnels des services d'urgence des hôpitaux. Une grève à bas bruit depuis le mois de mars à Paris en particulier. Elle a gagné beaucoup de services d'urgence en province. On approche de la centaine de services d'urgence concernés où infirmiers et aides-soignants disent leur épuisement en portant un simple brassard. De plus en plus, les médecins expriment ouvertement leur soutien. Et aujourd'hui, appel à mobilisation dans les hôpitaux et rassemblement devant le ministère de la Santé. Vous le suivez pour France Inter, Adrien Toffolet. Est-ce qu'il y a du monde ? Quels slogans sont mis en avant, Adrien ?
Alors Bruno, il y a une centaine de personnes hein, venues de toute la France devant le ministère avec, vous l'entendez peut-être, de la musique et des personnels médicaux qui témoignent de leur quotidien au micro. Le son des haut-parleurs est très fort car l'objectif, s'ils sont peu nombreux, car il est très difficile pour ces métiers de manifester, l'objectif, eh bien, il est de se faire entendre. J'aimais mon métier, mais ça c'était avant, peut-on lire sur les blouses blanches. Hôpitaux en colère également. Gwendoline, par exemple, est en colère contre la ministre de la Santé. Elle est sage-femme à l'hôpital de Cavaillon.
Je suis outrée quand j'entends Madame Buzel la semaine dernière qui dit qu'elle a donné de l'argent aux hôpitaux pour les faire sortir des déficits financiers. C'est absolument faux. Les déficits financiers ont été faits sur des fermetures de postes. Nous, on a perdu notamment un poste de brancardier, 40 000 euros d'économie. On a perdu des postes dans beaucoup de services. On n'a absolument pas donné l'argent. Et elle nous a dit que ça nous a donné une bouffée d'oxygène. C'est un scandale. On nous dit qu'on ne doit pas faire grève parce que la santé doit primer. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait pour la santé des gens ?
Le gouvernement ne répond pas aux revendications des syndicats et du collectif Interurgence, expliquent les manifestants. Ils n'écoutent pas, malgré la mobilisation qui est très forte depuis des mois. Christian Prudhomme de la CGT Santé.
Il y a besoin aujourd'hui de redonner de l'espoir au personnel. Ce mouvement redonne de l'espoir. C'est ça qui est important. Il arrive un moment donné, on a marre d'être baladé avec des ministres, des politiques qui nous remercient de notre engagement. Voilà, les infirmières sont pas des bonnes sœurs, hein, ça suffit. On a des demandes qui sont claires, des collègues pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et les augmentations de salaire.
Une délégation du syndicat et du collectif Interurgence doit être reçue au ministère dans quelques minutes. Mais comme vendredi dernier, ce n'est pas Agnès Buzyn qui va les accueillir. De fait, devant le ministère, on n'attend rien de ce rendez-vous. On va nous répéter les mêmes choses, anticipent déjà les manifestants.
On vient d'entendre au micro d'Adrien les arguments de Christophe Prudhomme. On entendra Martin Hirsch dans un instant. D'abord, dans ce contexte, bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé, le rapport sur la mort d'une patiente en décembre dernier aux urgences de Lariboisière. Rapport dévoilé ce matin par nos confrères du Monde. Il confirme que le manque de moyens peut avoir des conséquences dramatiques aux urgences.
Oui, les urgences étaient saturées ce jour-là. L'équipe avait dû faire face à une surcharge, ce qui arrive souvent le lundi, car des patients attendent la fin du week-end où ils savent qu'il y a encore moins de personnel pour se présenter donc aux urgences. Selon cette enquête diffusée par le Monde, c'est cette somme de travail très importante qui a conduit à un non-respect des protocoles de prise en charge. L'assistance publique des hôpitaux de Paris avait déjà reconnu une série de dysfonctionnements en janvier dernier. Alors on a là plus de détails. Le rappel de ce 18 décembre, amené par les pompiers à 18h17, cette femme de 55 ans avait été placée en circuit court, mais son état de santé était alors considéré comme parmi les moins graves. Une infirmière la verra à 19h, puis à 21h, mais pas un médecin. Quand elle est enfin appelée pour être conduite à un médecin, à minuit, elle ne répond pas. Elle est donc marquée rayée des listes et ne sera découverte qu'à 6h du matin. La surveillance n'a pas été conforme aux procédures.
Et bien évidemment, ça fait écho avec l'insuffisance de personnel, ce qu'on entend aujourd'hui.
Oui, sur la procédure d'appel par exemple. Avant de rayer cette personne de la liste, il aurait fallu, dit l'enquête, l'appeler 3 fois à 20 minutes d'intervalle et vérifier systématiquement tous les bracelets au poignet des gens dans les zones de surveillance. L'infirmière de nuit interrogée estime qu'il est impossible de les vérifier tous. D'autant que, et ce pourrait être le début des mauvais enchaînements, aucune pièce d'identité n'a été demandée à la victime lorsque les pompiers ont transmis la fiche d'information.
Et donc le risque serait plus important aux urgences ?
Eh bien notre invité, le docteur Jonathan Freund, le disait ce matin et je vous livre une enquête réalisée très récemment au CHU de Nîmes et qui a été présentée la semaine dernière au congrès des urgences. Le fait d'attendre entraîne une perte de chance. Elle avait conclu cette enquête à un patient sur 60 qui meurt très vraisemblablement du fait de cette attente.
Le grand entretien de France Inter entre 8h20 et 8h45 en effet consacré à ce malaise aux urgences. C'est à réécouter sur franceinter.fr. Le cœur du malaise, c'est donc Paris, ce rapport sur la Riboisière, les arrêts maladie il y a quelques jours à la Riboisière, puis ces derniers jours à l'hôpital Saint-Antoine près de Bastille. Que répond le patron des hôpitaux de Paris ? Martin Hirsch était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Il fait une promesse.
La chose principale, c'est-à-dire que vous soyez suffisamment nombreux pour pouvoir vous occuper des patients, on y va. C'est-à-dire que pour la première fois, on a dit les effectifs des infirmières, des aides-soignantes, des médecins augmenteront parallèlement au nombre de patients.
À quelle échéance ?
Maintenant. Pas 2022, 2025, 2028.
Ça veut
2019.
Dire que les hôpitaux, il y a le plus de patients qui arrivent aux urgences, vont, dans les semaines, les mois qui viennent,
absolument,
avoir des renforts.
Absolument.
Vous les avez
dans
chiffrés déjà à la PHP ?
Oui, on les a chiffrés déjà. On est encore en négociation puisque tous les services ne sont pas exactement dans la même situation. Ça va être des embauches supplémentaires, on les prend pas dans certains hôpitaux. Ceci dit, il y a une difficulté, c'est pour ça que moi j'essaye de faire en sorte que on puisse apporter des réponses concrètes et pas des réponses théoriques. Il y a une difficulté aujourd'hui, en tout cas en région parisienne, pour pouvoir recruter, parce que il y a aujourd'hui moins de candidats au poste que nous avons de postes ouverts.
Martin Hirsch ce matin avec Marc Fauvel. Évidemment, cette crise prenant de l'ampleur, le monde politique s'en empare. La chef de file des députés socialistes Valérie Rabault demande que 500 millions soient débloqués pour les services d'urgence. Le Parti communiste demande un moratoire sur les fermetures de lits. Bonjour Yael Goz.
Bonjour. Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter. Au milieu de tout cela, une ministre dans la tourmente, Agnès Buzyn.
Et une ministre charnière à la croisée des grandes réformes à venir. Retraite, dépendance, PMA, tout ça passe ou passera à un moment donné par elle. Et les hôpitaux, bien sûr, vote du projet de loi santé à 15h cet après-midi au Sénat. Agnès Buzyn, hématologue de profession, sans plan de carrière politique. C'est ce qu'elle dit à ses équipes quand elle prend le ministère il y a 2 ans. Elle ne vend pas du rêve. Elle est là pour changer les choses sur le long terme, expliquent ses proches. Buzyn, ou le symbole de cette société civile en marche, plongée dans le chaudron politique. Face aux urgentistes, elle a le mauvais rôle. L'opposition, vous le disiez, demande des moyens. L'opinion défend le service public. Alors comment manœuvrer ? Pas de déni, elle a conscience des problèmes. L'hôpital, elle en vient, mais elle prône une gestion responsable, ne pas laisser de dette aux générations futures. Que dit la ministre ? Que cette grève, premièrement, il faut la relativiser. 10-15% de services concernés sur toute la France, un quart des grévistes sur Paris. Attention à l'effet loupe. 2, qu'elle ne reste pas les bras croisés. Près d'1,1 milliard d'euros injectés en plus pour l'hôpital cette année. Problème, individuellement, une infirmière, un aide-soignant n'a rien ressenti. Faut-il augmenter les salaires ? Mais que diront les autres services hospitaliers ? Et les policiers ? Et les enseignants ? Agnès Buzyn sait qu'elle prendrait le risque de réveiller toute la fonction publique en ne cédant pas. Elle apprend la politique.
Et cet après-midi, le Sénat doit adopter la loi santé, qui est le projet de loi santé porté par Madame Buzyn, qui prévoit notamment la suppression du numerus clausus dans les études de médecine, les hôpitaux de proximité, la régularisation de médecins étrangers, tout cela pour fournir plus de personnel, notamment dans les services d'urgence.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Il y a un peu plus de 4 ans, au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo, on a mesuré à quel point le sort fait au dessin de presse était un baromètre de la santé d'une démocratie. Et voilà qu'un des plus grands journaux au monde, le New York Times, annonce qu'il ne publiera plus de caricatures. Décision prise un peu plus d'un mois après une vaste polémique déclenchée par un dessin jugé antisémite. On ne présente plus Plantu, le dessinateur éditorialiste du Monde, fondateur de Cartooning for Peace, qui défend les caricaturistes du monde entier. Alexandra Hakoun lui a demandé ce qu'il pensait de la décision du New York Times.
Pour moi, en Iran, c'est une censure à l'ancienne. Si on fait ça, on va en prison. Si on ne fait pas ça, on ne va pas en prison. Là, c'est pire, c'est des petites pétoches qui s'installent dans la tête des rédacteurs en chef et qui font que maintenant, ils ont pris l'habitude. On le voit bien, on a défendu un dessinateur allemand, un dessinateur israélien, il n'y a pas longtemps, qui ont été virés parce que leurs rédacteurs en chef se sont mis à pétocher devant la vague des réseaux sociaux. Et c'est là où la pensée va se réduire, c'est que si les journaux s'aplatissent devant les réseaux sociaux, évidemment, la liberté des dessinateurs, mais ça c'est secondaire, mais c'est la liberté des journalistes et la liberté des citoyens, qui va être évidemment mis en pièces, bien entendu, et notre propre liberté d'opinion. On se rend compte que les peurs se sont installées dans les esprits. Et évidemment, nos démocraties le paieront très cher.
Plantu avec Alexandra Hakoun, dans plus de la moitié des pays africains, on n'a pas le droit d'être homosexuel. Mais un nouveau pays a basculé ce matin du côté libéral. Le Botswana, la justice décriminalise l'homosexualité dans ce pays tout au sud du continent. De nouvelles révélations montrent l'état piteux de la démocratie au Brésil, avant même l'élection du président d'extrême droite Bolsonaro. Depuis l'année dernière, l'ancien président de gauche Lula purge une peine de prison pour corruption, peine qui l'a empêché de se présenter à la présidentielle contre Bolsonaro. A-t-il été condamné au terme d'une enquête régulière? On peut en douter après les révélations du site The Intercept, un site américain qui a eu accès à des messages échangés entre le procureur en chef Deltan Dallagnol et le juge Sergio Moro, aujourd'hui ministre de la Justice. Bilan, tout cela est assez marron, Anne Vignol.
La terreur des procureurs de l'enquête contre la corruption était de voir la gauche revenir au pouvoir au Brésil. C'est ce qui ressort de leurs messages échangés sur le réseau Telegram. Avec ses collègues, le procureur Deltan Dallagnol doute aussi des preuves qu'il a contre l'ancien président Lula. Pourtant, en conférence de presse, il va présenter Lula comme le responsable central de tout le système de corruption. Un double discours qui pose problème quand l'homme condamné est un ancien chef d'État favori pour remporter l'élection présidentielle en octobre dernier. Comme le montrent encore les messages, le juge Moro dirige en sous-main l'enquête et n'est pas l'homme impartial qu'il prétend être.
Je n'ai rien vu de particulier dans ces messages. Je considère cela comme une écoute criminelle des téléphones portables par des procureurs. Pour moi, c'est une infraction très grave qu'il y ait eu cette divulgation. Et en ce qui me concerne, je ne vois pas grand-chose à dire.
En 2015, pourtant, le juge Moro avait donné à la presse les conversations privées entre la présidente d'alors, Dilma Rousseff, et Lula. Après avoir présenté ses excuses, il n'avait reçu aucune punition du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, c'est le pouvoir législatif qui veut l'entendre et bloque en attendant tout travail au Parlement. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
En France, l'actualité, c'est ce constat, on peut mourir d'un accident de trottinette. Un jeune homme est mort après avoir été percuté par un camion hier soir alors qu'il roulait en trottinette électrique. Cela s'est passé en plein Paris, Emmanuel Grabé.
C'était en plein quartier de la Goutte d'Or, selon une source policière, à l'angle de la rue Doudoville et de la rue Léon, deux rues à sens unique avec une priorité à droite et, toujours de même source, le jeune homme de 25 ans qui conduisait la trottinette aurait refusé le passage à la camionnette. Il est alors 22h30, le jeune homme est immédiatement pris en charge par les pompiers et transporté dans un état d'urgence absolue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il succombe à ses blessures moins de 2 heures plus tard. Le conducteur de la camionnette est pour le moment en garde à vue, le temps de déterminer les circonstances de l'accident, notamment s'il avait consommé de l'alcool et des stupéfiants et où roulait la trottinette, sur la route ou sur le trottoir, parce qu'à l'arrivée des enquêteurs, l'engin avait disparu. Tout cela, c'est le STJA, le service de traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police, qui va devoir le déterminer. Il est chargé de l'enquête pour homicide involontaire ouverte par le parquet de Paris.
Peut-être êtes-vous de ceux qui comptent les jours avant l'été. Le 21 juin, c'est dans 10 jours, les grandes vacances dans moins d'un mois. Alors c'est le moment de faire de la prévention pour éviter que ce moment tant attendu tourne au drame. Santé publique France publie une étude sur les noyades. Sur la période juin-septembre, comparaison entre l'été dernier et 2015, date d'une précédente étude, il y a eu l'année dernière 1649 noyades accidentelles, c'est plus 30% par rapport à 2015. Pour en parler, notre invité est Aymeric Hung. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Épidémiologiste responsable de cette enquête à Santé publique France. Pourquoi cette augmentation très marquée du nombre de noyades?
Alors vous l'avez dit, 1649 noyades accidentelles. Le premier facteur qui rentre en compte, c'est les très bonnes conditions climatiques qu'il y a eu l'été dernier. Hein. Météo France a classé 2018 comme le deuxième été le plus chaud depuis 1900. Et donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de baignades.
Donc plus de monde, relâchement de la vigilance également. Dans quelles conditions, au fond, est-ce que cette vigilance se relâche? C'est-à-dire, on sait tous, les adultes, que un enfant qui va se baigner, c'est loin d'être anodin. Comment se fait-il que il y a des circonstances particulières dans lesquelles la vigilance se relâche?
Oui, il peut y en avoir tout un tas. Une attention qui est détournée par un téléphone qui sonne, oui. Par le fait d'aller ouvrir la porte. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, à l'approche de l'été, il est vraiment important de rappeler des conseils de prévention simples, hein, pour que la baignade reste un plaisir, parce que l'enquête indique que dans 3/4 des cas, la noyade chez le tout petit se passe pendant le temps de baignade. Donc il faut vraiment une vigilance absolue et rapprochée de l'enfant. Se baigner avec lui, c'est le plus simple. Et si jamais on doit partir, on prend l'enfant avec soi et on l'enveloppe dans une serviette.
Une chose qu'on ne dit pas souvent, donc il y a ce chiffre de 1649 noyades accidentelles, toutes ne se traduisent pas par des décès. Il y a eu 600 décès sur ces 1649. Quelquefois, cela dit, on ne meurt pas, mais les séquelles peuvent être lourdes.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est plutôt 400. C'est 400 parmi les 1649, d'accord, ce qui représente 25% oui. Des noyades, ce qui est beaucoup. Alors effectivement, ça entraîne un certain nombre de séquelles. Plus le degré de la noyade est important, plus le cerveau et les organes ont été privés d'oxygène. Et effectivement, ça entraîne des séquelles le plus souvent neurologiques, oui, mais aussi physiques.
Il y a pas mal de victimes et de noyades chez les plus de 65 ans. C'est un âge où on peut présumer de ses forces, c'est bien cela?
Exactement. Les personnes âgées représentent 22% des noyades accidentelles. Ce sont des noyades qui ont davantage lieu en mer. Et effectivement, dans pratiquement un cas sur deux, il y a une occurrence de malaise qui est rapportée parmi les noyades chez les personnes âgées. Et ça, effectivement, on peut aussi l'éviter. Hein. Il faut ne pas surestimer son état physique. Le mieux, c'est d'aller se baigner en groupe, par exemple, pour signaler un problème le cas échéant, et prendre en compte les conditions environnementales. Ne pas se baigner dans des lieux interdits à la baignade et faire attention donc aux conditions de vent et globalement de mer.
Entre mer, piscine et les cours d'eau douce, il y a statistiquement des endroits où il y a plus d'accidents que d'autres?
Alors, en mer, ça représente 44% dans l'enquête 2018 des noyades totales. Et selon les enquêtes, c'est environ un quart en cours d'eau, plan d'eau, et un quart en piscine. Mais ce qui change vraiment, c'est les âges. Hein. C'est les tout-petits, c'est dans les piscines. En mer, les personnes âgées. Et les cours d'eau, plan d'eau, davantage les classes d'âge intermédiaires.
Toute petite question, on ne nage pas de la même manière en mer et en piscine. Est-ce qu'il y a un conseil à donner de ce point de vue-là?
Alors, tout à fait, effectivement, les conditions de nage ne sont pas du tout les mêmes. Hein. La piscine est un environnement protégé. En mer, il faut vraiment faire attention donc aux consignes qui sont données par les sauveteurs, par Météo France. Vraiment se baigner dans les endroits surveillés, parce que ça permet aussi aux services de secours d'intervenir rapidement et donc d'éviter un certain nombre de drames.
Merci Aymeric Hung d'avoir répondu à nos questions sur ce rapport dont on trouve tous les détails sur franceinter.fr. Dans un milieu du foot complètement formaté, voir les champions du monde jouer sur un terrain passablement pourri fait un bien fou. Éliminatoire de l'Euro, les Bleus en Andorre ce soir. Terrain synthétique qui gratte un peu de peinture verte pour cacher la misère là où il y a des trous. Peut-être un peu de neige fondue, seulement 3 tribunes. Pour les Bleus, tout autre résultat qu'une victoire assez large, si possible, ferait mauvais genre, surtout après la défaite 2-0 en Turquie. Mais parlons des filles également. Les Françaises jouent demain à Nice leur deuxième match de Coupe du Monde face à la Norvège. Elles apprennent à vivre avec la médiatisation et ce soir, entrée en lice de celles qui sont parmi les grandes adversaires des Bleus dans cette compétition. Les États-Unis, tenantes du titre, 3 fois sacrées, elles jouent contre la Thaïlande, Guillaume Batin.
Ah oui, bah moi l'intransigeance, la rigueur, voilà, ça me caractérise. Mère fouettarde aussi par moments. Beaucoup de choses, d'ailleurs on ne rigole jamais chez nous.
Ça c'est Corinne Diacre qu'on entendra un peu plus tard. Est-ce que Guillaume Batin sur les États-Unis, c'est parti.
Les triples championnes du monde et quadruples championnes olympiques génèrent des profits plus importants que l'équipe américaine masculine de football. Et pourtant, elles voyagent systématiquement en avion de ligne, quand les vols privés sont réservés aux garçons. Des entraînements sur terrain synthétique pour elles, des pelouses naturelles plus confortables pour eux et des primes de match 2 fois plus élevées pour ces messieurs qui n'ont jamais rien gagné. À force de faire passer le message, mais sans jamais convaincre, même par la voix de ces stars très influentes, Alex Morgan ou Megan Rapinoe et Carly Lloyd, les 28 joueuses de la sélection américaine ont lancé en mars dernier une procédure judiciaire contre leur puissante fédération, l'USSF, pour discrimination sexiste généralisée. Leurs avocats s'appuient sur 2 lois, l'Equal Pay Act de 1963 et le Civil Rights Act de 1964, autrement dit des lois qui imposent un salaire égal à travail égal. Un procès devrait avoir lieu en 2020.
Voilà pour les précisions de Guillaume Batin. Le coup d'envoi, c'est à 21h de ce match États-Unis-Thaïlande. Allez, si vous êtes à table, vous en êtes peut-être au dessert. Voici le portrait de la meilleure pâtissière du monde. Première femme sacrée dans le classement du World's 50 Best Restaurants. Elle est française, originaire de Mont-de-Marsan. Elle a 32 ans. Elle exerce dans le restaurant 3 étoiles Plaza Athénée à Paris. Elle s'appelle Jessica Prealpato. Voilà pour les éléments biographiques. Mais le plus intéressant, Béatrice Duguay, vous nous le disiez dans les titres, c'est que c'est une pâtissière très originale qui aime l'amertume, l'acidité et la nature.
Pas ou peu de crème, pas ouais. De mousse, peu de sucre, ce qui révolutionne un peu la discipline, ouais. Vous l'admettez. Elle aime les bons produits surtout et ne pas les surcharger.
Bien sûr, j'utilise encore de la matière grasse, j'utilise du beurre, j'utilise du sucre, mais c'est vraiment parcimonie et c'est pour apporter vraiment quelque chose au dessert. Quand le dessert va manquer de gras, on va ajouter ce gras-là. Et si on doit apporter un sucre, on va essayer de favoriser les sucres non raffinés ou les miels par exemple. Mais c'est vrai que c'est très rare et ça a vraiment un sens et ça apporte quelque chose au dessert.
Jessica Prealpato est dans l'air du temps, poussée par Alain Ducasse et Romain Méder, le chef du Plaza Athénée, qui développe le concept de naturalité. Travailler au maximum des produits de saison avec des fournisseurs sensibilisés et des clients du coup incités à ne pas vouloir des fraises ou des cerises en hiver.
Il faut faire comprendre aux gens que ben forcément le produit, s'il a une saison, il faut la respecter. C'est pour des bonnes choses, déjà pour la nature, et c'est aussi bon pour le corps humain. Enfin, c'est toute une philosophie qui est derrière. Donc après, je ne veux pas porter de message ou quoi que ce soit. Moi, c'est la pâtisserie que je fais parce que c'est vraiment la pâtisserie que j'aime et celle qui me correspond le plus. Mais c'est vrai que c'est important de mettre en avant les produits de saison. Et en France, on a des très très beaux produits de saison, donc les privilégier.
Ça veut dire que si les fraises ne sont bonnes que de 3 semaines, eh bien elle prendra le risque de faire vivre une recette 3 semaines seulement. Elle a également le souci de ne pas gaspiller. Témoin, cette pâte à tarte présentée le 26 mai dans On va déguster, l'émission du dimanche sur France Inter.
Ouais.
Une pâte à base de pain de la veille, réduit en poudre avec un peu de beurre et toastée. Et puis, fidèle à ses racines landaises, elle aime aussi faire le miasson, le dessert de sa grand-mère. C'est un flan à base de farine de maïs.
Merci Béatrice Duguay pour ce portrait.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac.
Entre les Pyrénées, la Méditerranée et le Nord-Est, c'est gris, pluvieux, il neige vers 1700 mètres sur les Pyrénées. La Côte d'Azur est mieux lotie avec des éclaircies, elles sont plus belles en Corse, mais ça tourne à l'orage en montagne. Sur le reste du pays, c'est variable, quelques éclaircies appréciables, pas mal de nuages, des averses, parfois un orage. C'est de la Bretagne aux Charentes que les averses sont les plus nombreuses, sous un ciel bien sombre. Le thermomètre baisse, 12 degrés à Brest, 16 à Lyon, 17 à Caen, Limoges, Biarritz ou Perpignan, 18 à Nancy, 20 à Paris, Montpellier et 26 à Ajaccio. C'est la journée la plus fraîche de la semaine, ça va remonter dès demain et ça va s'améliorer sur l'Est et le Sud avec le retour du soleil.